Bonjour pour ce nouveau numéro de Lab Oratoire, le magazine de l'économie sociale et solidaire réalisé avec les Écosolis, notre partenaire. Je reçois avec les complicités de Valentin Beauvalet et de Yann Le Tailleron, au lendemain d'un événement que vous allez découvrir, Julie Lefebvre, chargée de projet et animation de réseau aux Écosolis, ainsi que les trois lauréats ou leurs représentants, Emmanuel Couratoras d'Andiplanet, Catherine Leland de Petit Med et Anne-Laure Mesguen de Bénévolte. Des invités surprises interviendront au cours de ce programme. On va s'intéresser aux lauréats et à leurs projets. On va commencer par Emmanuel.
Ce qui serait bien, c'est que tu pitches ton projet, où il en est actuellement, après ces trois jours. Et aussi, petite contrainte, est-ce que tu as déjà réfléchi à une structure juridique ? Est-ce que ça roule ou quoi ?
Je vais répondre en plusieurs points. Donc déjà, je vais représenter le projet parce que je n'ai pas eu le temps encore de le poser. Donc en fait,
mais ce n'était pas le moment.
Voilà,
c'est maintenant le moment.
Ah d'accord, ok. Donc Andiplanet, en fait, c'est donc le nom du projet que je porte. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un guide de voyage collaboratif et social à destination des personnes à mobilité réduite. Donc, qu'est-ce que j'entends par guide de voyage ? C'est en gros, aujourd'hui, il y a tout un tas d'informations quand on veut voyager qui est un peu éparpillé sur le web. Et quand on est dans une personne qui a un handicap physique et de mobilité, de surcroît, c'est très difficile de trouver une information fiable et accessible. Il y a le Lonely Planet, il y a le Guide du Routard, il y a plein d'applications qui existent. Il y a des blogs, des sites internet concernant l'Office du Tourisme. Mais tout ça n'apporte aucune réponse vraiment fiable. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est un guide de voyage qui va centraliser tout ça, qui va mettre en relation des voyageurs qui ont déjà fait ces déplacements-là, qui ont déjà vécu ces expériences-là et qui vont donc pouvoir partager ces expériences au même titre qu'on va partager quelque chose sur Facebook. Et donc, grâce à ces expériences et ces retours d'expérience, ces bons plans, ces astuces, les personnes qui sont désireuses de voyager et dans une situation de handicap pourront mieux se projeter et ensuite organiser, planifier et pourquoi pas rencontrer aussi peut-être les personnes sur place afin de tisser des liens. C'est vraiment assez social comme projet. Voilà. C'est pas un réseau social, mais c'est un guide de voyage social et collaboratif. Voilà.
Très bien. Et au niveau de la structure
juridique, justement, dans les Écosolis, pendant ce week-end-là, on avait des personnes qui étaient des mentors, qui étaient justement là pour nous aider dans la réflexion sur la structure juridique, même si ça a été assez peu abordé pour la majorité des projets, parce qu'on avait peu de temps pour présenter le projet. Et aujourd'hui, on réfléchit à une structure d'entreprise, soit type SCOP ou SKIC, ou voire tout simplement une SAS. Je me suis pas encore fixé, c'est assez difficile, c'est en fonction aussi des personnes qui seront supporters du projet et en termes d'apport aussi financier, parce que voilà, c'est aujourd'hui la première dotation que propose l'Écosolis, c'est un super tremplin. Maintenant, effectivement, voilà, aujourd'hui le projet, pour savoir répondre à ta troisième question, où il en est, c'est que pour l'instant c'est au stade zéro. Il y a une page Facebook et un Twitter, AndiPlanet.fr, je vous invite à y aller aussi. Il y a un site internet qui est juste une page d'accueil. Et aujourd'hui, voilà, clairement, rien n'est fait. J'ai besoin d'argent comme la majorité de tous les pitchs qui étaient présentés. Et l'idée, c'est de trouver aujourd'hui un fonds d'amorçage pour pouvoir créer la plateforme. Voilà.
D'accord.
Mais il n'y a pas eu d'étude de viabilité économique avant ?
Si. En fait, le business model était en réflexion.
Il faut parler en anglais maintenant pour comprendre.
Le modèle économique qui était présenté, la manière de se rendre viable et économiquement rentable ce projet-là, s'il faut parler français.
c'est mieux.
Oui, c'est mieux. C'était de dire, on va proposer ce projet-là, donc cette plateforme-là, 100% gratuite. Donc, à un moment donné, si personne paye cet accès-là, il faut bien le rentabiliser par quelque chose. Donc, l'idée, c'était de proposer une audience payante pour les professionnels du tourisme et de l'handitourisme qui ont dépensé des milliers, des millions, voire des milliards dans la mise aux normes de leur... infrastructure et pour aujourd'hui permettre aux 80% des personnes à mobilité réduite qui ne voyagent pas de le faire. Faut savoir aujourd'hui que le marché que représente aujourd'hui le voyage, l'handi-voyage en Europe, c'est environ 1 milliard d'euros. Donc c'est colossal. Dans ces 1 milliard, il y a un nombre de nuits X nuitées multiplié par un nombre d'utilisateurs à mobilité réduite. Il y a un nombre de repas avec un ticket moyen, etc. C'est calculé assez, de manière assez précisément sur la moyenne des pays et sur une moyenne de dépenses d'une nuit d'hôtel, d'un resto. Et donc voilà, c'est assez colossal en termes de revenus. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a de quoi aujourd'hui sponsoriser ce type de projet-là, qui est un projet aujourd'hui 100% humaniste.
Est-ce que vous voulez peser et être un agent transformateur pour faire en sorte que tout le monde puisse aller partout ?
C'est une question très pertinente dans la mesure, en fait, il existe déjà des choses aujourd'hui sur le marché qui répondent à un besoin de dire, ben voilà, est-ce que tel endroit est accessible ou pas ? Et je suis juste un catalogue d'endroits accessibles. L'idée, c'est pas le cas. On veut vraiment mettre le tourisme et le voyage au centre de tout. Et la deuxième particularité, c'est de permettre de voyager aux personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est de devenir, l'ambition aujourd'hui d'Handiplanet, en tout cas la mienne, c'est de devenir la référence du guide de voyage dans le monde et de pouvoir tabler sur des retours d'expérience. Vraiment, c'est j'ajoute une expérience, je prends une photo d'un endroit, d'une ville, d'un monument, d'une excursion, et derrière je partage plus qu'un simple, une simple information d'accessibilité. Évidemment, il y aura cette information d'accessibilité, mais ça va bien au-delà. Évidemment, ça va sur le côté moi j'y étais, si moi j'y suis allé, pourquoi pas vous. C'est ça l'idée.
Catherine, même exercice.
Oui.
Alors vous êtes porte-parole.
Moi, je suis porte-parole de Pierre-Antoine Baragnac. J'ai un petit pense-bête quand même pour l'objectif de la structure, qui est la récupération des dispositifs médicaux, alors du petit appareil médical. On peut tout recycler, tout réutiliser. Là, on est sur des appareils qui sont de petite taille, qui sont électroniques et électriques.
Des fraises de dentiste.
Non. on a des tensiomètres, des respirateurs, des pousses-seringues. On peut être dans l'électrocardiogramme, l'oxygénothérapie. Donc c'est déplaçable. On n'est pas dans le gros matériel d'une salle d'op, par exemple, ou de l'échographie. On a eu l'occasion de voir qu'il y avait aussi des recyclages dans ces petits matériels. C'est surtout que ce petit matériel, il est considéré comme du jetable, comme du consommable. Il y a un capot qui est fêlé, on va jeter tout l'appareil. Le tensiomètre, le tissu dans lequel on passe son bras, il est un peu sale, il n'est pas de la bonne couleur, on en commande un autre. Et c'est aussi un système qui fait que les structures de soins, qu'elles soient publiques ou privées, elles ont un budget à dépenser de ce matériel. Et c'est un peu comme on disait, brûler l'essence à une époque pour être sûr de pouvoir en recommander autant l'année suivante. Là, il y a des choses qui sont encore fonctionnelles.
On va dire au revoir à Emmanuel.
Voilà. Au revoir Emmanuel, merci. Qui sont encore fonctionnelles, qui parfois nécessitent une petite réparation de niveau 1 qui est très simple. C'est changer une pile, c'est remettre un capot sur un qui est complètement mort et on fait un échange et hop, ça repart. Donc ce sont des équipements qui sont labellisés CE. Le médical est quand même quelque chose de très suivi avec...
Heureusement.
Et donc de se dire, ces équipements sont jetés et sont jetés dans le meilleur des cas, retournent chez le fabricant, c'est 20%. Le fabricant est obligé de reprendre le matériel si la structure hospitalière en fait la demande. Mais sinon, alors parfois il y a quand même des possibilités de donner à des associations, etc. Mais c'est pas organisé. Et donc Pierre-Antoine, qui travaille dans une société de tierce maintenance, constate que dans son intervention, il jette et ça entasse et ça part en déchetterie, tout simplement, en D3E dans le meilleur des cas, alors que ça pourrait partir pour des structures médicales avec des petits budgets, donc qui pourraient acheter ce matériel totalement fonctionnel, ou d'envisager de le faire partir dans des pays avec très très faible budget, dans des pays en situation de guerre, hein, tout le monde suit l'actualité actuellement. Donc il y a vraiment ce premier objectif d'éviter le déchet, mais surtout de lui trouver un réemploi humanitaire complet. Donc après, l'humanitaire, on est dans le don, et on va en revenir aussi au principe de comment ça fonctionne financièrement.
Et alors ?
Et alors ?
Vous faites les questions-réponses.
Alors, en fait, le souci, c'est de pouvoir quand même se dire, on vend des choses, on collecte des choses et on a un revenu. On travaille avec des cellules d'insertion. Donc, on a aussi une source de soutien de ce côté-là. Et puis, on peut se permettre de donner. Et donc, Julie nous disait qu'il y avait Humed qui était là dans les jurys. Et qui tout de suite a pris contact avec Pierre-Antoine parce qu'ils ont trouvé un lien évident dans leurs activités et une porte. C'est formidable.
Une dernière question, quand même. Quelle est la structure juridique qui devrait être mise en place ?
La structure sera probablement associative. Le projet peut être hébergé au sein de l'activité dans laquelle travaille Pierre-Antoine pour démarrer et donc peut fonctionner en associatif avec une montée en puissance. Il y a une première phase du projet qui est la sensibilisation des structures hospitalières aux déchets et sensibiliser les fabricants et être au passage dans cette boucle et travailler en partenariat avec des ONG, etc. Et la deuxième phase, qui est début de récupération, peut me démarrer très facilement dans le cadre de son activité.
Anne-Laure, nous ne posons pas de questions, c'est à vous.
Donc Bénévolt, bénévolt.fr, c'est va proposer de mettre en relation par différents outils les jeunes seniors et qui vont partir à la retraite, alors qui vont partir ou qui sont déjà partis depuis peu de temps, avec des associations, avec des entreprises d'économie sociale et solidaire ou de projets, et des particuliers qui ont besoin de bénévolat. Donc besoin d'un coup de main et derrière de pouvoir faire appel aux compétences et aux envies et au profil des jeunes seniors.
Comment vous est venue cette idée ?
Alors cette idée a germé, je dirais, depuis à peu près un an. J'étais manager de service dans mon ancienne entreprise et j'ai accompagné des personnes qui sont parties à la retraite. Et j'ai notamment deux personnes qui ne voulaient absolument pas partir. Donc c'est vrai que ça a été un peu l'étonnement général, enfin en tout cas comprendre pourquoi il y avait cette angoisse. Alors, on a pas mal échangé, pas mal discuté et voilà, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile, qui n'est pas facile à préparer, qui est un peu une angoisse du vide, le besoin de se sentir utile. Et finalement on dit beaucoup il faut préparer sa retraite, mais on ne donne pas beaucoup finalement de possibilités d'actions concrètes pour derrière concrétiser en fait ce passage à la retraite.
L'évolution, c'est de passer de la retraite de 62 à 65. Ça, c'est contre votre projet, puisque...
Pas du tout, parce que l'espérance de vie augmente, donc le projet va évoluer aussi avec l'âge de nos seniors.
Sur la viabilité économique ?
Donc sur la viabilité économique, l'idée est de proposer des services de sensibilisation auprès des entreprises pour, dans une démarche RH ou dans une démarche RSE, donc de faire de la formation auprès des entreprises et donc des salariés qui sont proches du départ à la retraite. On a également aussi une proposition d'abonnement à la plateforme, donc parler... c'est une invasion de pigeons.
Oui, il neige au Solilab, c'est incroyable.
Oui, donc je disais un abonnement annuel pour des associations, les particuliers ou les start-up qui voudraient faire appel au service des seniors. Et puis des prestations différenciantes aussi pour les associations avec des audits sur la structure actuelle de leur bénévolat, savoir si quels sont leurs besoins, comment on peut les aider à structurer, à développer justement leur association via des renforts complémentaires.
Bien. Non, il y a la troisième question.
Alors la structure juridique, c'est une plateforme de mise en relation. Donc c'est vrai que la structure juridique est allée naturellement vers une SAS, mais à impact positif et pour maximiser l'impact social, donc avec un agrément de l'économie sociale et solidaire. Donc l'agrément ESUS qui est en cours là. Voilà, on est dans les méandres administratifs pour étudier le statut.
Nouveau numéro de Lab Oratoire consacré à Demain Mode d'Emploi, un événement organisé au Solilab par les Écosoli. Vous êtes venu donc présenter votre projet. Vous en avez découvert d'autres. Vous n'avez pas eu la tentation d'abandonner le vôtre pour en rejoindre un plus fort, non?
J'avais déjà fait une sélection des projets sur le projet d'Emmanuel m'intéressait beaucoup. Il y avait beaucoup de projets qui m'intéressaient à titre personnel, par conviction aussi. Donc j'aurais été ravie de rejoindre d'autres équipes. De là à abandonner le mien, non, pas encore. Mais c'est vrai que c'est très dynamique et c'était très positif. Donc on a envie de donner et de mettre à contribution son énergie.
Pour reprendre la question de Valentin, c'est l'idée d'une formation où vraiment vous allez tout mettre pour que ce projet aboutisse.
Oui,
tout mettre en œuvre.
Complètement. Ouais. Formation, oui, parce qu'on apprend tous les jours et puis on découvre aussi des nouvelles personnes. Beaucoup de choses s'apprennent au fur et à mesure et c'est en faisant qu'on apprend, hein, ça clairement. Mais plus qu'une formation, c'est une réelle envie aussi de mener le projet, d'aller jusqu'au bout et de le concrétiser. Donc c'est plus qu'une formation, c'est un vrai projet d'entreprise.
Même question, il ira jusqu'au bout?
Ah ouais, je pense qu'il ira jusqu'au bout, bien sûr.
Et vous, ça vous donne envie de retrouver un projet ou de...
Ah ben moi, j'ai de toute façon mon projet.
Ou de poursuivre ça,
soirée de clôture m'a permis de rencontrer des gens vraiment intéressants qui étaient ou au jury ou qui ont été dans les mentors. Et de toute façon, ces contacts-là et les personnes avec lesquelles on échange, que ça soit sur le projet directement ou en parlant avec les projets autour de nous, font qu'on avancera d'une manière ou d'une autre. Donc c'était de toute façon positif. Et on le voit, les trois lauréats sont des gens qui aboutiront et parce qu'il y avait cette envie viscérale de faire quelque chose.
Une question pour Julie qui, on le rappelle, est chargée de projet et animatrice réseau des Écosolis. Tu t'occupes aussi de la pépinière au Solilab. Va-t-il y avoir des suites dans l'accompagnement des projets par les Écosolis?
Alors, par les Écosolis elles-mêmes
par exemple, les dispositifs comme la pépinière
Oui, alors je pense qu'il y a des projets qui peuvent... c'est ce qu'on est en train de caler, en fait, là, au niveau des organisateurs. C'est comment nous aussi, Écosolis, on va pouvoir capter, orienter des personnes dont parfois les idées n'ont pas été sélectionnées, qui ouais. pourraient éventuellement rentrer dans des dispositifs comme les ateliers pop-corn ou bien comme un hébergement aussi dans la pépinière. Ça, c'est envisageable. Pour l'instant, on est en train de démarrer en fait le bilan là, avec l'ensemble des personnes qui se sont impliquées, les participants, les mentors, les partenaires. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on ouais. travaille sur la suite.
Vous voyez plus large que les lauréats. Vous voyez l'ensemble des participants.
Bah, je pense qu'en fait, il y a peut-être des idées qui n'ont pas été retenues, mais qui ont une place qui serait intéressant d'accompagner. Et les lauréats, bien sûr, ça fait partie du jeu. Mais également les équipes qui n'ont pas gagné, si quelque chose s'est créé et que peut-être il y a une envie de suite... Évidemment qu'elles peuvent trouver une place dans l'accompagnement Écosolis ou d'autres.
C'est la question, quel a été le bon projet qui n'a pas été retenu?
Je ne sais pas. En fait, après, je pense que c'est aussi l'objet du bilan, notamment par rapport aux questions de vote. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec Catherine, c'est vrai que ce soit sur la sélection des idées du départ ou bien même sur la sélection du jury. Et le jury, il avait une grille de critères. Maintenant, c'est clair qu'en termes de timing, c'était un peu short aussi. Ils se sont appuyés sur des critères sur lesquels ils étaient d'accord, mais... peut-être ça mériterait aussi plus de discussions, je ne sais pas.
Rapide, parce qu'on va.
C'est pas tellement sur le jury qui a sélectionné les trois derniers, c'est ce que je disais, les trois derniers, ils sont sortis parce que l'idée, elle était déjà construite, réfléchie depuis 6 mois, 1 an, avec un vrai besoin.
Mais ils n'avaient peut-être pas besoin alors de.
Si, tout à fait. Ils l'ont dit également, Anne-Laure l'a dit, Emmanuel l'a dit, et je le dis pour Pierre-André et pour moi-même. Si.
Il y aura une deuxième édition en octobre prochain?
Je pense qu'il y aura une deuxième édition. On fait le bilan fin novembre avec les co-organisateurs.
Merci à Julie Lefebvre, chargée de projet et animation de réseau aux Écosolis, Emmanuel Couratoras d'Andy Planète, Catherine Leland de Petit Med, Anne-Laure Mesguen de Bénévolt, et merci aux invités surprises qui se sont librement exprimés dans cette émission réalisée avec le concours des Écosolis.